Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 11 novembre 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Les élections législatives en Guinée ont été fixées au 16 février. Une radio locale sensibilisant sur l'Ebola en RDC cesse d'émettre après le meurtre de l'un de ses journalistes. Journée violente et chaotique entre policiers manifestants à Hong Kong. L'Organisation des États américains appelle à la paix et au respect de la loi en Bolivie, où le président Evo Morales a été forcé de démissionner hier. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. La commission électorale guinéenne a proposé la tenue d'élections législatives le 16 février, une annonce faite dans un contexte de crise sociopolitique avec des manifestations contre un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Les précisions de Zakaria Camara à Conakry.
Ce nouveau chronogramme pour le scrutin législatif a été adopté vendredi à l'unanimité des commissaires. 16 des 17 commissaires ont voté pour, précise le communiqué de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la CENI a fait remarquer qu'il s'agit d'une vision d'un ensemble d'opérations dont la mise en œuvre requiert à la fois des ressources humaines compétentes et des moyens techniques et financiers. Maître Amadou Salif Kébé a dit donc vouloir compter sur l'accompagnement technique, matériel et financier des pouvoirs publics, des acteurs sociopolitiques et des partenaires techniques et financiers. La CENI, par la voix de son président, a aussi annoncé les acquis. Il s'agit notamment des logiciels d'enrôlement biométrique performants, des moteurs IBIS pour soustraire des doublons dans les données alphanumériques, les empreintes digitales et la détection faciale des électeurs. Toutes ces acquisitions, précise la CENI, ont été faites sur la base des recommandations de l'audit du fichier électoral, entre autres. C'est le deuxième chronogramme depuis l'expiration des mandats des députés. Les législatives avaient été fixées au 28 décembre 2019, mais l'opposition guinéenne l'avait jugée irréaliste. Une opposition qui, depuis plusieurs semaines, manifeste dans la rue contre un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Trois assaillants ont été abattus ce lundi matin à Futuri dans l'est du Burkina Faso lors d'une riposte à une attaque terroriste contre un détachement militaire, a annoncé l'état-major des armées. La vigoureuse riposte des unités a permis de neutraliser au moins trois assaillants et de récupérer de l'armement et des munitions, indique le communiqué, ajoutant que deux soldats légèrement blessés ont été pris en charge et évacués. La Gambie, mandatée par les États membres de l'Organisation de la coopération islamique, a engagé une action judiciaire devant la Cour internationale de justice contre la Birmanie pour ses actions commises à l'encontre de la minorité musulmane des Rohingyas, a annoncé le ministère gambien de la justice. 740 000 Rohingyas ont fui depuis août 2017 les exactions de l'armée birmane et de milices bouddhistes. La Gambie accuse la Birmanie d'avoir violé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. En République démocratique du Congo, une radio engagée dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Ituri a décidé de fermer par peur de représailles ayant déjà coûté la vie à l'un de ses journalistes. Yacouba Ouédraogo nous en dit plus.
Depuis le mois dernier, nous sommes tous menacés. Nous venons de décider de couper le signal de notre radio, a déclaré Joël Moussavouli, directeur de la radio communautaire Luamba en Ituri. Il a ajouté que lui et ses collègues sont victimes de leur engagement dans la sensibilisation contre la propagation du virus Ebola. Le 2 novembre, Papi Mahamba, animateur de la radio Luamba, a été tué dans sa maison par des inconnus. Son épouse a été blessée et sa maison incendiée. Joël Moussavouli, directeur de la radio, affirme avoir échappé à deux tentatives d'enlèvement. Il dut regretter l'inaction des autorités. Depuis septembre, plusieurs radios de Mambasa ont arrêté de diffuser des programmes sur la lutte contre Ebola à cause de l'hostilité d'une partie de la population, selon une organisation de défense de la presse. La RDC lutte contre une épidémie d'Ebola déclarée le 1er août 2018. L'épidémie a jusqu'à présent tué 2193 personnes sur 3287 cas, selon les derniers chiffres officiels.
En Algérie, 42 personnes comparaissent ce lundi à Alger pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Elles avaient été arrêtées pour avoir arboré un drapeau amazigh pendant la contestation populaire. 14 ont été jugées à la mi-journée. Le parquet a requis 2 ans de prison, 100 000 dinars d'amende et la confiscation des drapeaux. La défense a plaidé l'acquittement, arguant que la Constitution précise que l'amazighité est l'une des composantes de l'identité nationale, indiquait maître Salem Khatri, membre du collectif d'avocats. La Mauritanie organise jusqu'à samedi en plein désert son festival des villes anciennes. Le président Mohamed Ould Ghazouani a inauguré hier à Chinguetti l'événement qui tourne chaque année entre cette cité et 3 autres vieilles villes. Érigées au XIe et XIIe siècle, ces centres marchands sont devenus des foyers de rayonnement culturel inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Hong Kong a connu ce lundi une des journées les plus violentes et chaotiques en 5 mois de manifestation. Un manifestant a été blessé par balle par un policier et la circulation a été paralysée dans toute la ville. Bagassi Koura nous en dit plus.
Les manifestants ont multiplié les actions pour bloquer les transports suite à la diffusion sur Facebook d'une vidéo montrant l'un de leurs touché par un tir quasi à bout portant d'un policier dans le nord-est de Hong Kong. Ils ont érigé des barrages sur les routes alors que des radicaux vandalisaient des stations de métro et attaquaient des sociétés accusées de faire le jeu du gouvernement local ou de Pékin. Un homme masqué a même aspergé un autre homme avec un liquide inflammable avant de le transformer en torche humaine dans une scène filmée par des téléphones et vite propagée sur les réseaux sociaux. Après 24 semaines de manifestations, l'exécutif local et le gouvernement chinois se sont refusés à toute concession aux manifestants qui demandent des réformes démocratiques et une enquête sur le comportement de la police.
Situation confuse en Bolivie après la démission hier du président Evo Morales, alors que le pays est secoué par de violentes manifestations depuis la présidentielle du 20 octobre. Le point avec Timothée Donangmaï.
C'est l'incertitude à La Paz, la capitale bolivienne, quant à savoir qui dirige le pays. Selon la Constitution, c'est le président du Sénat en cas d'indisponibilité du président et du vice-président. Toutefois, la présidente du Sénat, Adriana Salvatierra, a elle aussi annoncé sa démission dimanche. En dépit de son annonce, le président Morales reste défiant. Le Monde et nos patriotes boliviens rejettent ce coup d'État, a-t-il tweeté ce lundi. Un rapport de l'Organisation des États américains publié hier fait état de manipulation du système électoral. Le document remet en cause la victoire au premier tour d'Evo Morales et appelle à de nouvelles élections, une position adoptée par certains pays latino-américains, tandis que d'autres ont épousé la thèse du putsch. C'est un coup d'État parce que l'armée a exigé la démission du président et c'est une violation de l'ordre constitutionnel, a déclaré le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard. Washington appelle à une transition sous direction civile et à l'organisation d'une nouvelle présidentielle sous l'égide de l'Organisation des États américains.
Dans le nord-est de la Syrie, au moins 6 civils ont été tués et 22 blessés dans 3 attentats simultanés à Kamishli, ville à majorité kurde. Ces attaques n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat. Plus tôt dans la journée, le groupe État islamique a revendiqué une attaque dans laquelle un prêtre de l'église arménienne catholique et son père ont été tués alors qu'ils se rendaient à Kamishli, de Kamishli à Deir ez-Zor dans l'est du pays. La Turquie a commencé à expulser des membres étrangers du groupe État islamique, annonçant la prochaine expulsion de 22 autres. 3 terroristes étrangers américains, allemands et danois ont été déportés, a indiqué le ministère de l'Intérieur. 7 djihadistes d'origine allemande seront expulsés jeudi et des démarches sont en cours pour 15 autres, 11 français, 2 allemands et 2 irlandais. et un Palestinien a été tué par balle ce lundi et des dizaines d'autres ont été blessés lors d'affrontements avec les forces israéliennes en Cisjordanie occupée. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, l'actualité économique en Afrique présentée par Nani Talani.
Le Nigérian Dangote Group a signé un accord d'environ 2 milliards de dollars pour transformer le phosphate en engrais et pour construire une usine de ciment au Togo. Les vastes ressources togolaises de phosphate sont principalement exportées sous leur forme brute et le projet de Dangote changerait les choses. Les engrais seraient exportés dans la région. Dangote a également signé un contrat d'environ 60 millions de dollars pour construire une cimenterie au premier trimestre de 2020 et dont la production devrait commencer la fin de l'année prochaine. L'Égypte a enregistré en octobre un taux d'inflation de 2,4% contre 17,5% pour le même mois de l'année dernière. C'est le taux le plus bas depuis près de 10 ans. L'Agence centrale de mobilisation publique et des statistiques explique ce chiffre inattendu par un ralentissement de la hausse des prix de la nourriture et des boissons. L'augmentation de la production agricole a fait baisser les prix des fruits et légumes, affectant ceux des denrées alimentaires, qui représentent 40% des prix à la consommation. Pour terminer, le Soudan a besoin d'un soutien budgétaire pouvant atteindre 5 milliards de dollars pour éviter un effondrement économique et lancer des réformes. Selon le ministre soudanais des Finances, Ibrahim El Badawi, les plans prévoient une augmentation des salaires publics. Il propose aussi qu'un réseau de soutien social soit créé pour se préparer à la suppression des subventions au carburant et à l'alimentation.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
L'Algérie reprend Haris Belkebla pour les éliminatoires de la CAN 2021.
Oui, le milieu de terrain de Brest, exclu pour des raisons disciplinaires, a été rappelé par le sélectionneur Jamel Belmadi. Haris Belkebla a raté la CAN 2019, remportée par les siens, après avoir exhibé son postérieur sur Internet, alors qu'un de ses coéquipiers jouait à un jeu en ligne. En revanche, Yassine Brahimi, qui portait le brassard de capitaine lors du dernier match à des Fenech, n'a pas été convoqué. On note aussi le retour de l'attaquant de Montpellier, Indy Delors, absent en octobre à cause d'une blessure. Les Fenech affronteront la Zambie ce jeudi en Algérie, puis le Botswana le 18 à Gaborone, pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021.
L'ancien président de la Fédération tanzanienne de football a été suspendu.
Jamal Emil Malinzi a été suspendu 10 ans de toute activité liée au football pour détournement de fonds d'après la FIFA. L'ancien président de la Fédération tanzanienne, également ancien membre d'une commission de la FIFA, a aussi été condamné par la commission de discipline de l'instance mondiale à une amende de 455 700 euros. Jamal Emil Malinzi a été reconnu coupable d'avoir détourné des fonds de la FIFA, de la CAF et de sa propre fédération entre 2013 et 2017. Malinzi est aussi suspendu pour avoir falsifié une résolution du comité exécutif de sa fédération.
Ici aux États-Unis, Seattle est champion de la MLS.
Toronto FC a chuté à nouveau en finale face à Seattle comme en 2016. C'est la troisième finale entre les deux franchises en seulement 4 ans. La première a été remportée par Seattle en 2016 au tir au but avant la revanche des Canadiens l'année suivante 2-0. Cette fois, pour une première à la maison, Seattle a eu la belle.
NBA, les Toronto Raptors mettent fin à la série des Lakers.
Les champions en titre ont battu les Lakers 113-104, mettant fin à leur série de victoires consécutives, 7 au total. Sans le meneur Kyle Lowry et l'ailier Serge Ibaka, tous deux blessés, la franchise canadienne a signé un 7e succès en 9 rencontres. Le triple-double de LeBron James, 13 points, 15 passes décisives et 13 rebonds, n'a pas suffi face aux Raptors du Camerounais Pascal Siakam, auteur de 24 points et 3 contres. Dans les autres matchs, les Milwaukee Bucks ont signé leur 7e victoire de la saison face à Oklahoma City, 121-119. La rencontre Minnesota-Denver a été remportée par les Nuggets, 100-98 après prolongation. Les Philadelphia Sixers, portés par l'autre Camerounais Joel Embiid, ont dominé Charlotte, 114-106.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. À présent, les dossiers du jour. Au Burkina Faso, c'est toujours la tristesse et la colère chez les familles des victimes de l'attaque du convoi de la mine d'or de Semafo sur l'axe Bongou-Ougarou mercredi dernier. Durant tout le week-end, les parents des 39 personnes tuées ont procédé à l'enlèvement des corps. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À la morgue de l'hôpital de Bobo-Dogo, Ouagadougou, l'un des grands centres de santé du pays. Ici, des centaines de personnes, la plupart membres des familles des personnes tuées mercredi à Bongo. À tour de rôle, chaque famille passe, rentre dans un bureau, procède au remplissage de formulaires et récupère son corps. Le silence est pesant.
C'est la désolation. C'est triste de perdre un proche. On n'y peut rien.
Oumarou Tangwano est venu enlever le corps de son cousin mort dans l'attaque.
C'est de la colère, de l'impuissance, d'être incapable ou bien de voir mon pays incapable de se protéger. C'est triste.
Ismaël Ouedraogo est aussi proche de victimes.
On est attristé par ces événements qui nous arrivent. On aimerait que tout ça, ça cesse. Nos enfants, même jeunes, on voulait que tout ça, ça s'arrête. Voilà, le moment qu'on est là, on pleure. Nos enfants, nos frères, tout le monde.
Ici à la morgue, on tente de savoir la cause de ces attaques au Burkina. Oumarou Tangwano.
Le gouvernement fait son mieux. On a eu beaucoup d'opérations, notamment à l'Est, on a eu l'opération au Taponou. Mais on a senti vraiment une baisse de la garde de la part du gouvernement. Parce que quand il y a eu un peu d'accalmie, ils ont baissé la garde. Les terroristes ont profité.
Ismaël Ouedraogo, membre d'une famille de victimes.
Le gouvernement fait des efforts, mais qu'est-ce que vous voulez? Si ça dépasse le gouvernement, qu'est-ce qu'on va dire? La solution est que le peuple burkinabé se mette ensemble pour vraiment combattre ce phénomène-là. Ces attaques-là, on ne connaissait pas ça il y a chaud au Burkina ici. Bon, si c'est des gens qui sont derrière aussi, bon, qu'ils arrêtent, que ce soit des Européens ou Maziens, qu'ils arrêtent. Nous, en tout cas, on ne va pas nous laisser faire.
Des familles qui, pratiquement seules ce week-end à la morgue, retiraient les corps de leurs parents. Le président Kabore a annoncé le lendemain de l'attaque une mobilisation générale contre le terrorisme. Des jeunes volontaires devraient être recrutés pour défendre la patrie, a-t-il déclaré. Une opération dont les contours restent encore à élucider. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Centrafrique, le nombre de victimes des inondations dues à la montée du fleuve Oubangui et à la rivière Mpoko continue de s'accroître. La Croix-Rouge nationale parle d'au moins 50 000 sinistrés dans tout le pays. Dans la capitale, la mobilisation s'intensifie en faveur des personnes se retrouvant sans abri. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Cela fait plus de trois semaines déjà que le fleuve Oubangui et la rivière Poko sont sortis de leur lit, envahissant plusieurs régions du pays et de nombreux quartiers de la capitale. En dehors des deux sites aménagés par le gouvernement pour accueillir les sinistrés à Bangui et dans la commune de Bimbo, plusieurs autres camps de refuge sont créés dans la capitale et dans certaines régions. La Croix-Rouge nationale parle déjà de près de 50 000 victimes. Antoine Baobogo, son président.
Aujourd'hui, nous avons près de 50 000 personnes qui sont affectées par les inondations. Et il faut compter 7 personnes qui ont disparu avec 25 blessés. Nous avons des veuves, nous avons des orphelins, nous avons des désœuvrés, nous avons des personnes à la retraite qui ont passé toute leur vie à construire. Et aujourd'hui, la maison n'existe plus et il faudrait les soutenir.
Face à cette catastrophe naturelle, la mobilisation devient de plus en plus intense en faveur des sinistrés. Le gouvernement, les partis politiques et les différentes associations et personnalités volent au secours des victimes. Le groupement du patronat composé de plusieurs entreprises a secouru samedi 9 novembre les sinistrés installés sur les principaux sites. César Potolo, secrétaire général de cette organisation dénommée JICA.
Nous avons fait une collecte pour un montant de 15 millions qui nous a permis donc d'acheter toutes ces denrées de première nécessité. Pour nous, il fallait pallier à l'urgence, c'est-à-dire permettre aux gens de dormir quelque part, mettre en place une chaîne de solidarité pour venir en aide.
Craignant des conséquences néfastes sur la santé, le ministère de la Santé publique publique met en place un dispositif pour barrer la route à des maladies dangereuses comme le choléra. Docteur Maurice Bawa est coordonnateur du CUSP, Centre d'opération d'urgence en santé publique.
Les victimes sont vraiment exposées au risque de choléra. Vu ce risque élevé, le secteur santé a mis en place automatiquement la surveillance épidémiologique des cas. C'est vrai que le cas n'est pas encore détecté. Pour ne pas échapper à un seul cas, il y a des maladies courantes qu'il ne faut pas occulter, notamment le paludisme, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës. Et donc, il faut déployer des médicaments qui peuvent traiter ces maladies.
La situation est d'autant plus grave à Bangui qu'en province, notamment dans l'Est, le Sud et une partie du centre du pays. Le gouvernement confronté à de sérieuses difficultés logistiques promet des efforts pour les sinistrés de ces zones. La ministre de l'Action humanitaire, Virginie Baïkoua.
C'est toute la République qui est concernée. Là où nous avons des données fiables, par exemple à Bambari, il y a eu déjà notre partenaire HR qui a procédé à une remise de kits. Et actuellement, nous sommes en train de préparer une descente dans les provinces ou les zones accessibles pour pouvoir aider nos compatriotes sinistrés dans l'arrière-pays.
En dépit des mobilisations en cours à Bangui et parmi la diaspora centrafricaine, le nombre des victimes de ces inondations continue de s'accroître. C'est la première fois depuis plusieurs décennies que la République centrafricaine vit cette catastrophe naturelle. Fuman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Le développement par les livres est-il illusoire? C'est la question du débat littéraire qui a marqué la troisième édition de la Foire internationale du livre à Lomé sur le thème « Le livre, vecteur de développement ». Du 6 au 10 novembre, des ateliers littéraires, conférences publiques et rencontres d'écriture ont été organisés, notamment autour de la littérature africaine, bien sûr, et du rôle de l'écrivain dans le processus de développement du continent. Kay Lawson, notre correspondante, était de la partie.
Le livre est vecteur de connaissance et la connaissance fait le développement.
C'est le point de vue de Mimi Bossou Souedere, directrice de la maison TV5 Monde à Lomé. Pour celle qui côtoie au quotidien les enfants, le développement ne peut être effectif que si on investissait dans la jeune génération.
Avec le livre, c'est tous les secteurs qui sont exploités, de la culture à l'économie, de la politique au social. Et je pense qu'il faut nécessairement qu'on ramène nos enfants, nos jeunes à la lecture pour une vraie éducation, pour un vrai développement.
Maître Joseph Kokou Kofigo, ancien premier ministre togolais, qui a sorti ce 9 novembre son nouvel ouvrage « Regard sur le Togo », qui est un recueil de poèmes, insiste sur la culture du livre pour soutenir le développement.
C'est en semant des graines dans nos cerveaux que nous allons développer l'Afrique. Donc nous devons encourager la jeunesse à lire bande dessinée, poésie, théâtre, roman, ouvrages scientifiques. Tout est bon pour développer l'imagination et la créativité des jeunes.
La thèse selon laquelle les jeunes ne lisent plus n'est pas forcément attesté, nuance l'écrivaine togolaise Kouméalo Anaté.
Ce qu'il faut dire, quelle que soit l'époque, le livre et la lecture, c'est une question culturelle, c'est une question de pratique, c'est une question d'habitude. C'est lié à notre environnement, environnement familial, environnement scolaire.
Pour donner le goût de la lecture à une personne, il faut s'y prendre tôt. C'est ce à quoi est dédié l'espace enfant installé sur le site de la Foire internationale du livre de Lomé. Mohamed Garba est l'un des encadreurs des enfants.
C'est dans le livre qu'il y a la connaissance. Donc dès le bas âge, si on inculque ça à l'enfant, on lui fait aimer les livres. Et là, vous verrez que déjà, c'est une très bonne base pour lui. Et il n'aura pas trop de difficultés demain parce que toutes les sciences sont toujours dans les livres.
Des jeunes lycéens ont eu à échanger avec l'auteur invité d'honneur, le Togolais Aïhila, auteur de plusieurs œuvres dont il s'appelait Muammar. Des échanges qui ont suscité des vocations. Cornelia Lambeau, élève au lycée de Nyekonakwe dans la capitale togolaise.
Il m'a inspirée parce que tout d'abord, j'aime écrire. Mais c'est juste que j'ai peur de développer ce que j'ai à dire. Mais grâce à lui, je pourrais écrire quelque chose que je pense depuis toute mon enfance.
Rendez-vous donc en 2020 pour le tome 4 de la Foire internationale du livre de Lomé, avec des chapitres aussi palpitants les uns que les autres. Kailosson, Lomé, VOA.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Il y a 25 ans, les femmes n'étaient pas autorisées à piloter les avions de combat ni à conduire des chars. Malgré plusieurs générations de préjugés physiques et culturels, elles ont été attirées par les forces armées et font maintenant partie des bataillons. À l'occasion de la journée des anciens combattants aux États-Unis, Yulia Yarmolenko a rencontré une combattante de la Seconde Guerre mondiale qui a pu réaliser son rêve alors qu'il semblait impossible. Lionel Gaïma retrace son histoire.
Turn the page.
Libby Haynes a 92 ans. Les avions ont été sa passion plus de 75 ans. Lorsque sa mère lui a offert 10 dollars comme cadeau d'anniversaire pour ses 17 ans, elle savait exactement quoi en faire.
J'ai pris une leçon de pilotage, j'ai dépensé 6 dollars pour louer un Piper Cub pendant une heure, 3 dollars pour un instructeur et 1 dollar pour le journal de bord.
En 1945, l'adolescente avait déjà terminé un programme de formation des cadets de la patrouille aérienne civile et devient infirmière. Après la Seconde Guerre mondiale, elle décide de retourner dans le ciel.
Je venais d'avoir une très forte inspiration et je devais rejoindre l'armée de l'air. Je ne sais pas si je devrais dire guidée par Dieu ou que sais-je, mais c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie.
L'armée américaine n'a commencé à enrôler des femmes dans le service militaire actif qu'en 1972, mais Haynes était déjà météorologiste militaire. Elle se déplaçait avec la patrouille aérienne civile et a même réussi à s'acheter un petit avion qu'elle utilisait pour rentrer chez elle le week-end.
J'avais un permis d'étudiant lorsque j'ai acheté ce PG-23 sur plus à 500 dollars à l'époque, ce qui représentait 2 mois de salaire.
Son travail lui a apporté plus qu'une satisfaction professionnelle car elle y a rencontré son mari, un pilote. Lorsqu'il est tombé enceinte, une de ses collègues a dit à ses supérieurs qu'elle était en congé. Marilla Cushman, du Mémorial de femmes américaines dans le service militaire.
C'était un temps où si vous avez des enfants, si vous tombez enceinte, que vous soyez marié ou pas, vous perdiez votre travail.
Au milieu des années 70, les règles ont changé. Les femmes ont été autorisées à piloter des avions, mais pas les avions de combat. Après la guerre du Golfe de 1990 à 1991, cette limitation a été également supprimée. Aujourd'hui, les femmes représentent 14% des effectifs de l'armée américaine. Il a fallu plusieurs années de lutte pour en arriver là. C'est une occasion de se souvenir de ces femmes en ce 11 novembre, 11e mois, 11e jour, et à la 11e heure, la signature de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale en 1918.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Joselle Morissin et Nick Ivanov. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. On se retrouve dans quelques secondes pour un rappel des grands titres de l'actualité. Bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM.
Clédou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.